Je vous parlais un peu du moustique-tigre et comment s'est-il propagé dans le monde. Donc, originaire d'Asie du Sud-Est et de l'océan Indien, ce moustique au pays de la Céropithèque se propage au monde depuis la fin des années 1970. Et ce, via le commerce international, en particulier les pneus usagés, les décorations végétales, mais aussi via l'avion et la voiture. On en reparlera tout à l'heure. Les pneus usagés ayant contribué aussi à la dissémination de notre moustique, en particulier la dissémination de la maladie westerne aux États-Unis. En zone tropicale, ils colonisent les plantes dans de l'eau de pluie, tiges de bambou, comme dans notre coco. Là aussi, on reparlera de ce détail. Ils sont présents aux Amériques, en Afrique et en Océanie. En Europe, ils arrivent en Albanie en 79, puis s'installent en Italie en 90. C'est développé de manière continue depuis 2004, année où sa présence était mise en évidence dans les Alpes-Maritimes, et aujourd'hui est présent dans 17 départements. Constamment, car il est capable de transmettre la maladie telle que dengue et chikungunya, mais il y a d'autres virus qui peuvent être transmises par lui. Ce sont les deux qui ont beaucoup de succès actuellement, parce que tout le monde en parle, puis surtout il y a eu la crise dans l'île de la Réunion pour le chikungunya. Sa plasticité lui permet de s'adapter à des situations très variées, notamment en milieu urbain, dans les gîtes artificielles pour l'hiver. Dans nos régions, il persiste en hiver en salle d'œuf, en dépose pour éclore en avril, d'avril à novembre. L'adulte présente une alternance de taches blanches et de taches jaunes, en particulier la tache blanche qui est sur la tête, c'est celle qui nous permet de la reconnaître le plus rapidement possible. Et les femelles piquent la journée, tant intérieure qu'extérieure, autant l'homme que tout autre mammifère, oiseaux, batraciens, reptiles, avec des heures de piqûre qui sont très particulières à ce moustique, puisqu'il pique en début d'après-midi et fin d'après-midi, et non pas à la tombée de la nuit comme une moustique habituelle. Elle pompe dans toutes sortes de récipients sur sa partie sèche, jusqu'à la surface de l'eau, à raison de 70 à 100 litres par pompe. Et l'éclosion se produira de quelques jours à quelques mois si elle dépose. La dépose, c'est le moment où en hiver, le moustique attend la belle saison pour reprendre toute son activité. Donc, il est capable de tenir plusieurs mois. Le nerveau émergera un adulte vivant 2 semaines en été et 2 mois à la fraîche. C'est donc ses capacités vectorielles qui est à craindre. En effet, pour la première fois en 2010, on a diagnostiqué des canimins autochtones de dengue et chikungunya à Nice et à Fréjus. Ces deux maladies ont les mêmes symptômes, fortes fièvres associées à des douleurs articulaires et sont dues à ces virus. Alors, ce qui est intéressant sur la prolifération de ce moustique à travers tout notre pays, c'est de considérer comme un peu comme un stock de seringues qui se promènent dans notre pays, qui sont prêtes à se remplir de virus, à exploser au niveau viral parce que nous avons une population qui au niveau immunitaire est totalement vierge. Ce qui donnera donc une crise d'impact comme en Afrique où on a des petites épidémies et qui peut donner, si d'un seul coup tous nos seringues se remplissent, un gros problème de pandémie. Pour se protéger de solutions, je privilégie de la réelle à utiliser des outils de protection personnelle antivectorielle, traitement moustiquaire, répulsif cutané, insecticide pour imprimer les tissus. Aussi, donc, il y a une politique officielle qui consiste à responsabiliser la population. Ça, c'est tout à fait discutable, parce que moi, je pense que de temps en temps, on culpabilise la population. C'est-à-dire que l'État, s'il veut que la population soit responsabilisée, doit montrer l'exemple. Et nombre de régions ne réservent pas leur stock de pneus usagés. Les quantités d'eau qui stagnent sont impressionnantes et sont sous la dépendance du service public. Donc, je pense que lorsque l'État aura fait tout son travail en la matière, on pourrait commencer à responsabiliser la population. Je ressens particulièrement comme une culpabilisation de la population face à quelque chose qui est inévitable, un peu comme si une épidémie qui va venir, c'est un peu notre faute. Je crois que là, à ce niveau-là, il faut quand même déculpabiliser la population. Si on veut enlever ces épidémies, vous n'êtes pas là. Il y a d'autres problèmes qui ont généré tout cela. Aussi, quand son installation a été électée en 2004, le Corse a été déclaré en 2006 et le Corse du Sud en 2007. Alors, le problème, c'est qu'en fait, dès 2003, c'est quand même une petite anecdote, dès 2003, des chasseurs m'ont rapporté être piqués dans la nature de façon inhabituelle, à des heures totalement inhabituelles, et par des moustiques extrêmement agressifs, puisqu'ils revenaient avec un charlement pour les piquer. C'est à la suite de cela que je me suis rendu sur les lieux. Et que je trouvais ce moustique que je ne connaissais pas. C'était en 2003. De 2003 à 2006, nous avons envoyé avec les URPS, qui ont fait un travail d'épidémiologie, nous avons envoyé des accusés à la réception en permanence pour dire le moustique-tique est en Corse. Ils n'ont jamais été retenus. Les médecins ont fait leur travail, mais comme nous n'avons pas une structure épidémiologique, une structure de veille environnementale, c'est j'y viendrai après, ce travail d'alerte et de sensibilisation n'a servi absolument à rien. Pourquoi? Parce que pour repérer un moustique, un médecin n'est pas habilité. Il faut une habilitation. Il faut que les pièges qu'ils mettent en place ramènent des albopictus. Or, les albopictus, les pièges qui étaient utilisés, n'étaient pas faits pour les albopictus. Et pour cause, on n'en avait pas. Donc, on ne les cherchait pas. Donc, ça a quand même duré 3 ans. Il faut savoir aussi que dans la philosophie du moustique, on dit que ces moustiques se développent dans les sites habités, qu'ils adorent l'homme et qu'ils se développent préférentiellement dans les villes. Pas de chance pour la Corse, c'est développé en pleine nature, dans les sites où ils se ravitaillaient, entre guillemets, sur les animaux qui étaient présents autour d'eux, et loin de toute habitation. Donc lorsque nous disions, nous avons des albopictus à cet endroit, on disait, non, ça n'en est pas. Mais il n'y avait personne qui s'est passé. Résultat, quand enfin ils sont venus voir, ils ont dit, mais nous avons dû agir un petit peu plus tôt, parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Toute la Corse est moins économisée. C'est ce qui fait aussi que lorsqu'on a étudié la colonisation de la Corse par l'albopictus, le moustique s'est développé préférentiellement le long de certains cours d'eau et non pas dans les villes. Ensuite, il s'est développé le long des nationales, parce qu'il prenait la voiture. Il montait la voiture et les villes n'étaient pas touchées. Donc, on a de la répartition géographique qui était très inhabituelle et qui allait prendre maintenant de redevenir tout à fait habituelle. C'est-à-dire que maintenant qu'il a trouvé les bases pour se consolider, il est en train petit à petit d'enlever les principales villes de la Corse. Ce qui nous donne des passages de gros véhicules équipés de vaporisateurs, et on envoie des insecticides spécifiques dans la ville. Je ne sais pas au niveau santé ce que ça peut donner, mais je ne prononcerai pas sur ces produits-là. Donc, depuis 2006, le ministère de l'Enfer a agi sur un dispositif de lutte contre le risque de dissémination de la dengue chikungunya en France métropolitaine, en lien avec les agences régionales de santé, conseils généraux et les communes. Les médecins généralistes se sont retournés vers les agences régionales de santé afin d'envisager des stratégies pour limiter le risque épidémique. Oui, là aussi, à partir du moment où nos seringues moustiques étaient vides, tout le monde disait qu'il n'y avait aucun risque parce que le virus n'est pas là. Le problème, c'est que lorsque les gens, parce que les corps se lèvent beaucoup, c'est connu, lorsque nos corps sont entrés de l'île de la Réunion en particulier, rien n'était prévu. C'est à nouveau les URPS qui ont demandé si vous laissez les gens rentrer malades avec le chikungunya, on va armer toutes les seringues, mais ce n'était pas prévu. Là aussi, il a fallu qu'il y ait un travail de sensibilisation de la part des médecins pour qu'il y ait une réaction. Vous voyez, je pense que, à travers cet exemple, montre bien que le médecin de base, le médecin de famille, il a un rôle essentiel et que ce rôle, pour l'instant, n'est absolument pas pris en compte par les autorités. Le suivant, s'il vous plaît. Alors, le médecin généraliste de demain, on y a pensé encore, ça répondra peut-être à quelques questions que j'ai entendues jusqu'à présent. Le médecin généraliste prescripteur, curateur, doit devenir un acteur de santé publique face au changement climatique, environnemental, scientifique et médiatique. C'est-à-dire qu'il est exact que lorsque nous finissons nos études, nous avons un aspect figé dans nos connaissances, et que s'il est vrai que le siècle dernier avait privilégié la vitesse, c'est-à-dire travailler le plus possible pour en faire le plus possible, le fait que nous sommes maintenant dans une phase de changement doit privilégier l'accélération, c'est-à-dire la capacité d'adaptation et de réactivité. Ce sont deux vertus qui sont totalement absentes dans nos études de médecine. Si on apprend ce que nos maîtres nous dispensent comme enseignement, mais l'adaptabilité, la réactivité, la prise de responsabilité face à quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui doit vraiment rentrer maintenant dans l'éducation des gens qui vont remplacer bientôt. Il faut reconsidérer son rôle en amont dans le dispositif de veille sanitaire afin de prévenir et d'appréhender les risques environnementaux dans les émergences infectieuses. Dans le dispositif de veille sanitaire, l'alerte est toujours menée de haut vers le bas. Là, on rentre dans un problème qui est le problème de la mondialisation. Et la mondialisation, c'est pas quelque chose qui est entièrement négatif pour nous tous parce que ça nous donne accès à un savoir commun. Un savoir de toute la planète, c'est un savoir pour tous. Le problème, c'est qu'il faut savoir. Il faut aussi un savoir pour chacun. Et la mondialisation ne peut pas faire l'économie de ce que lui apporte le territoire sans plus petit corps multiple. Et là, le problème, c'est que tous mes confrères sont tout à fait partants pour travailler sur leur territoire. On ne leur donne pas la responsabilité, on ne leur met pas entre les mains le fait d'analyser ce qui se passe chez eux. Et je pense que c'est là qu'il y a quand même une faiblesse dans notre système, c'est-à-dire que c'est Paris qui un jour va dire « il y a peut-être un arbre Pictus en Corse, mettez en place un dispositif ». Alors que dans l'autre sens, on l'a bien vu, lorsque le territoire essaie de s'exprimer, cherche une espèce de responsabilité, il n'y a rien qui est fait pour l'instant. Donc pour moi, globalisation égale facilité politique, et il y a une perte de responsabilité qui est énorme. Donc, il y a la nécessité de collaboration avec les structures d'État, les élus locaux et l'aménagement du territoire. Ça, c'est fondamental. Parce qu'on l'a vu ce matin pour les cyanobactéries, parce qu'on assiste au plan de développement, ce qu'on appelle l'agenda 21, il y a un mépris total pour ce que peut dire le médecin, pour les risques que nous avons étudiés ce matin et cet après-midi. Ce sont des choses qui ne sont pas directives, et le monde médical n'a rien à dire. Alors, je pense que c'est vrai qu'on peut se révolter, comme je l'ai entendu tout à l'heure, ça fait 10 ans qu'on essaye de faire des choses et rien ne se fait. Et je pense qu'il faut repenser le système. C'est un système qui n'est pas fait pour ce changement que nous sommes en train de vivre. Il faut introduire une extrême réactivité dans toutes les organisations que nous avons. Et il faut mettre une certaine modernité qui nous manque beaucoup. Acteur de santé publique, il analyse, recueille les informations sur son territoire, assure une veille sanitaire et communique. Son territoire est défini comme une unité biologique, géologique, sociale, économique, avec un maillage entre ces différents acteurs. Là aussi, vous voyez que nous sommes dans son travail, nous sommes en rapport avec une biologie qui a des limites très particulières. Un médecin qui est à 10 km de loin n'a pas du tout les mêmes problèmes en virologie, en bactériologie ou en pollution que les miens. Pour autant, lorsque nous sommes traités par l'ARS, nous sommes traités strictement de la même façon. La définition du territoire est quelque chose qui doit être fait de façon très collégiale, avec une étude avec des participants qui seraient en géologie, en anthropologie, en sociologie aussi. Il faut arriver à avoir vraiment une perception extrêmement fine des sites sur lesquels nous travaillons. Sinon, nous n'y arriverons pas. En permanence, quand on nous signale sur le territoire que nous arrivons à maîtriser avec nos confrères, les problèmes sont tout à fait locaux. Donc, nous avons matière à provoquer des recherches et à trouver des choses. Et les choses s'arrêtent là parce que le système n'est pas encore fait. Et je ne sais pas si ce sera fait un jour. Je participe à une veille sanitaire organisée en task force thématique, veille d'amont pour changements environnementaux, et vigilance d'aval, évaluation de préconisations. Alors, une task force, pourquoi? Parce que la France, c'est le culte du héros. Donc, chaque fois que vous avez un problème, vous envoie un monsieur spécial, un expert, un monsieur Chikungunya, un monsieur Dan, etc. En particulier, en permanence, nous avons le héros qui arrive, ça je crois que c'est bien français, le problème c'est que ça ne marche pas. Une task force, c'est quelque chose de collégial qui doit faire appel à toutes les spécificités, à toutes les expertises dans un domaine donné. Il faut que nous apprenions à travailler de façon plus collégiale avec les autres corps de métier. Et je pense que si nous arrivons à muscler l'analyse de terrain, nous arrivons à faire une force qui arrivera à convaincre les politiques qu'il faut réagir de façon différente, et je pense que peut-être les actions que j'ai entendues tout à l'heure n'auront plus lieu d'être dans quelques années. Cette communication personnalisée en contrepoint avec la communication de masse met fin à la défiance ministère de la Santé et ministère médecin traitant et ministère de la Santé population. Alors, ministère de la Santé et médecin traitant, nous avons tous vécu le drame du médiator, de vaccination H1N1 avec la population, mais aussi le territoire est extrêmement important parce que le médecin, c'est l'homme du territoire qui va pouvoir convaincre de la nécessité impérieuse dans son territoire de résoudre certains problèmes. Le territoire, ce n'est pas seulement un territoire rural avec des limites, des fleuves, montagnes, etc. Un territoire, ça peut être une zone défavorisée, ça peut être une zone chimique. Un territoire, ça se définit sur de nombreux critères. Alors, notez la sénatrice Fabienne Kerr dans son rapport au Sénat du 5 juillet 2006 qui parle de renforcer sa position d'acteur de santé publique. Et Françoise Weber, directrice générale des NDS, le qualifie d'acteur communautaire de santé publique. Alors, je vois que les politiques ont enfin compris beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de textes qui permettent de mettre en place les choses. Je me demande comment ils peuvent faire pour confier encore des rôles que je trouve essentiels et qu'il faut donner aux médecins avec si peu de médecins. Les charges de travail sont considérables, les responsabilités le sont aussi, et je crois qu'en termes de prévention, c'est une responsabilité qui ne doit pas nous échapper. seulement à cette génération qui ne fabrique plus assez de médecins. Donc, je ne suis pas politique, je ne peux pas régler le problème à leur place, mais je pense qu'il faut beaucoup de médecins pour prendre beaucoup de responsabilités en la matière. Je finirai pour enlever un peu la mauvaise ambiance et la mauvaise humeur que j'ai entendue tout à l'heure avec une phrase d'Alain qui dit que le pessimisme est d'humeur et l'optimisme est de volonté. J'espère que nos IRPRS auront la volonté de faire bouger tout ça. Merci.